Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. Headline edition will bring you special reports and interviews in a moment.
Bonjour à toutes et à tous, Christophe Jubien pour vous accueillir dans Les Témoins de l'Invisible, l'émission de Radio Ranciel qui depuis une bonne quinzaine d'années maintenant essaie de vous informer sur la problématique des objets volants non identifiés. Une problématique qui semble-t-il, et nous nous en réjouissons, est en train de sortir de la marginalité dans laquelle la science officielle l'avait reléguée. Si vous faites partie de ceux qui s'intéressent de près aux ovnis, vous devez être sur des charbons ardents car le 25 juin prochain, le Pentagone, après avoir longtemps nié tout intérêt pour la question, rendra public un rapport d'étude sur les ovnis qui semble-t-il admet qu'un certain nombre d'observations n'a toujours pas trouvé d'explication. En France aussi, quoique à bas bruit, les choses se précisent. La commission Sigma 2 vient en effet de publier sur le site de l'Association astronautique et aéronautique de France un nouveau rapport d'étude sur les ovnis. À cette occasion, Luc Digny, président de la commission Sigma 2, et Pierre Bescon, l'un de ses membres éminents. Pierre Bescon a notamment assumé il y a quelques années la direction du Centre National d'Études Spatiales. Luc Digny et Pierre Bescon donc ont accepté de répondre à mes questions dans les prestigieux locaux de l'Aéroclub de France. Je suis très heureux d'être reçu aujourd'hui dans des locaux absolument mirifiques, ceux de l'Aéroclub de France, à Paris, par Pierre Bescon, donc, et Luc Digny pour évoquer. Eh bien, on va peut-être déjà évoquer cette synthèse du rapport d'avancement Sigma 2021, puisqu'elle est publique. Je l'ai téléchargée, l'imprimée, et les auditeurs de Radio Ranciel peuvent le faire. C'est gratuit, c'est public, c'est très intéressant. Alors peut-être d'abord revenir sur ce qu'est la commission Sigma 2. Nous avions reçu il y a quelques années Alain Boudier pour la commission Sigma 1. Qu'est-ce qui a changé depuis ? Alors qui veut répondre à cette question, Monsieur Digny ou Monsieur Bescon ?
Tout simplement, ce qui a changé, c'est que on a voulu recentrer les travaux de la commission Sigma, devenue Sigma 2, au plan technique et scientifique, c'est-à-dire se préoccuper de recherche de données, de bases de données, de documents qui permettent de cerner mieux le sujet des phénomènes aérospatiaux non identifiés et de démarrer donc des investigations plus scientifiques, plus techniques pour tenter d'expliquer les choses. C'est ça qui explique la mutation qui est intervenue fin 2013 avec un nouveau mandat.
La commission Sigma est missionnée ?
Elle est missionnée par la 3AF, la décision de la création de la commission PAN, et je pense que Pierre Bescon peut en parler mieux que moi d'ailleurs, remonte à 2008. C'est une décision du président Scheller, qui était président à l'époque, et quand j'ai pris la commission par la suite, sur la proposition aussi d'Alain Boudier, bien entendu. Et le mandat de l'époque, c'était effectivement mener des investigations sur les PAN. Par la suite, ça a été un tout petit peu plus directif. En tous les cas, il y a une volonté vraiment de se centrer sur les sciences et techniques. Voilà. Mais Pierre...
Pierre Bescon, alors ceux qui s'intéressent à la question des ovnis ou des pans, comme on veut, vous connaissent puisque vous avez donc appartenu à cette fameuse association Cometa qui a rendu un rapport qui a eu deux fortunes en France. Il a été vilipendé dans tous les médias où Pierre Lagrange a son rond de serviette. Mais aux États-Unis et puis ailleurs, ça a été un franc succès, il faut le rappeler.
Oui, absolument. Il faut aussi rappeler que c'est un groupe qui a été créé par l'IHEDN. Donc pour des questions de sécurité, de défense nationale. Mais également, l'IHEDN avait déjà travaillé sur le sujet il y a très longtemps. C'était conjoint d'ailleurs avec la création du GEPAN. Certains ont dit que c'était grâce à ce rapport qu'on a créé le GEPAN. Pas tout à fait. C'était à la fois la proposition de Claude Poher, qui était un scientifique, mais qui s'intéressait à ces choses-là, très objectivement, en vrai scientifique. Et Sillard, à l'époque, a eu le courage de créer le GEPON, effectivement. Ça, c'était une première, mais c'était vraiment à la même époque où l'IHEDN déjà avait fait un petit rapport sur le sujet. Bon. Et puis, des années après, à l'intérieur du CNES, on se posait des questions sur ce service-là. On l'avait mélangé avec un autre service qui était le CEPRA, qui était le service des retombées d'objets sur la Terre. Bon, c'était un peu mélangé les genres. Et on a craint à un moment donné que finalement, peut-être, le GEPAN pouvait disparaître. Et du coup, l'IHEDN, un certain nombre de membres de l'IHEDN, avec le général Letty en président, a dit il est temps de faire le point sur le sujet. Donc on a travaillé plusieurs années. Ça a donné le rapport Cometa, qui, de mon point de vue, est devenu le document de référence sur le sujet. Même si en France, parce qu'on aime bien ça, on vilipende des choses, bon, c'est pas très grave. Les Américains ont pris ça très au sérieux. Tellement au sérieux qu'ils en ont fait une traduction qu'on a reprise. C'est intéressant de le signaler parce qu'on l'a reprise réellement. Il apparaissait dedans des fautes de traduction qui parfois apparaissaient comme des contresens. De mon point de vue, qui connaît assez bien l'américain pour avoir vécu chez eux, c'était des contresens, voulu, pas voulu, je n'en dirai pas plus. Mais donc on a repris ce rapport en anglais pour le corriger quand même. Donc de mon point de vue, c'était le document de référence, ça a un peu vieilli maintenant. Il y a un nouveau document de référence qui est le livre qui a été écrit par une journaliste américaine, Leslie Kean, qui, de mon point de vue, est une excellente référence en anglais également. Et puis, bon, bah, tout ça vieillit un petit peu. Aujourd'hui, je pense que le rapport de la 3F, de la commission Sigma 2, sera le nouveau document de référence sur le sujet.
Alors, ce rapport, qu'est-ce qu'il dit très précisément? Alors déjà, dans les premières pages, ce qui est impressionnant, c'est de voir combien de personnes ont contribué à ce rapport et à quel point, finalement, vous travaillez aussi à l'international. Hein.
Oui, effectivement, on a des contacts internationaux parce que on cherche à établir en fait une carte donc planétaire des lieux où des recherches sérieuses ont été menées de façon à identifier des sources de données, de bases de données. Ça, c'est là, je dirais, le premier aspect, l'aspect international. Ensuite, bien entendu, on travaille au niveau national en lien avec le GEPAN. Nous avons des rôles qui sont tout à fait différents, mais on se nourrit aussi des données de la base de données du GEPAN. Et d'ailleurs, on peut être amené à creuser des cas qui ont été étudiés, enfin plutôt enquêtés dans le passé, et apporter de l'information nouvelle. Et c'est finalement par le truchement à la fois des données venant de l'étranger, qui sont dans certains cas des données récentes, ce fut le cas par exemple avec les Chiliens, etc., on pourra en reparler sans doute, mais également des données plus anciennes, dans les bases de données américaines, hein, les projets Blue Book, on a exploité un certain nombre de rapports de l'époque, et donc par la combinaison de ces informations-là, on élabore une réflexion, un recoupement entre des cas, et ça c'est en gros le contenu du rapport qui va sortir.
J'ai envie de mettre les pieds dans le plat, vous m'en excuserez, mais je me rappelle que à la fin du rapport Cometa, eh bien, il nous était dit que l'hypothèse extraterrestre est de loin la meilleure hypothèse scientifique. Elle n'est pas prouvée, mais il existe de fortes présomptions en sa faveur. Et si elle est exacte, elle est grosse de conséquences. Cette conclusion, elle est toujours valable ?
Cette conclusion est toujours valable, mais malheureusement, la plupart des gens l'ont interprété pour dire que le groupe Cometa estimait que ces apparitions, c'était des extraterrestres. C'est pas ce qu'on a dit. On l'a dit dans toutes les théories qu'on peut mettre en évidence. La seule qui correspond le mieux, ça pourrait être des extraterrestres. Mais il peut aussi y avoir des découvertes scientifiques nouvelles. Depuis d'ailleurs qu'on a fait le rapport Cometa, vous avez maintenant au-dessus de l'atmosphère des phénomènes qu'on voit, alors qui ressemblent pas à des ovnis hein, malgré tout, mais des choses qu'on ne connaissait pas, qui se déclenchent et qui finalement n'étaient pas connues scientifiquement. Donc il faut faire très attention à ce qu'on dit. Le rapport Cometa n'a pas dit que c'était des extraterrestres. Il a dit il ne faut pas perdre ça de vue. Et j'aime bien, quand je dis ça, citer le film américain qui est assez extraordinaire. Là, c'est Mars Attaque, où l'humanité est toujours en retard d'un cran sur ces extraterrestres qui se pointent, ces martiens qui se pointent. Ce qu'on disait, on voulait alerter l'État pour dire il faut se préoccuper de ces choses-là. C'est des choses qu'on ne comprend pas. Le public en est inquiété. Et donc, il faut répondre. Et vous, politiques, devriez être prêts à répondre à quoi que ce soit qui se passe, qui dépasse tout à fait l'entendement ou les sciences qu'on connaît. Donc, on voulait alerter le pouvoir politique. Le résultat a été quasi nul. Hein. C'est-à-dire qu'eux, ils voient échéance à un an, deux ans leurs élections. Donc ça ne les a pas préoccupés beaucoup. C'est dommage. Parce que si demain, il apparaît quoi que ce soit, même si c'est une découverte scientifique américaine ou chinoise et qu'on en est baba parce qu'on voit que c'est de l'hypersonique sur des durées considérables, que ce soit dans l'air ou que ce soit dans l'eau, on aura l'air de quoi si on n'y est pas préparé, vous voyez. Donc on voulait alerter le pouvoir politique de façon qu'il ne supprime pas cette préoccupation-là, qu'il s'en occupe au contraire très sérieusement, qu'il soit prêt à répondre à un événement quel qu'il soit.
Donc, Luc Dinet, vous nous avez dit, vous travaillez sur, parfois sur des dossiers très anciens, vous avez dit des dossiers du Blue Book. Comment on peut travailler sur des dossiers si anciens quand il n'y a pas finalement de matériaux concrets, finalement, le matériel de celui qui enquête, c'est le récit?
Alors, le récit, c'est toute la question. Nous évitons, au fond, de construire des réflexions techniques et scientifiques uniquement sur la base d'observations faites par des témoins. Nous laissons, notamment le GEPAN en France, mener ses investigations et ses enquêtes pour tenter de cerner des explications. On s'intéresse plus particulièrement à des cas que l'on pourrait qualifier de techniques, c'est-à-dire assortis d'un certain nombre d'informations suffisamment objectives, voire des mesures, c'est encore mieux, qui vont permettre à ce moment-là de mieux cerner le phénomène qui est observé. Donc, pour revenir effectivement à votre question concernant les informations anciennes, nous citons d'ailleurs dans la synthèse du rapport, et bien évidemment nous consacrons des chapitres à l'étude par exemple des phénomènes électromagnétiques, nous avons établi un certain nombre de correspondances entre des observations qui ont été faites s'agissant du dossier Blue Book. Il y a des observations qui ont été faites sur des bases américaines, près de la frontière nord-canadienne. En l'occurrence, des enregistrements de signaux. Certains sont connus. Il y a un cas qui est extrêmement connu, c'est celui du RB-47. Cela remonte, je crois, à 1957, donc ça ne date pas d'hier, c'est plutôt avant-hier. Il y a eu des enregistrements par des équipements d'écoute électroniques qui sont conçus pour ça, où il y a des ondes électromagnétiques qui ont été enregistrées en même temps que des phénomènes lumineux ont été observés. Phénomènes lumineux blanc-bleu. Voilà, phénomène électromagnétique, enregistrement de fréquence autour de 3 GHz, avec des impulsions extrêmement courtes. Que fait-on de cela? Eh bien, en fait, on exploite ces informations, on les recoupe avec d'autres parce qu'il y a eu des enregistrements faits par des B-52 également autour des mêmes fréquences. Donc là, ça commence à devenir un petit peu similaire. Et on a constaté que d'autres observations ont été faites en Russie, par exemple, de façon assez ancienne, avec des problèmes d'interférence. Il y a un cas qui est très connu également, qui est cité dans le livre de Leslie Kin, qui est celui de Téhéran, 1976. Avec
celui-ci, non ?
Oui, mais si vous voulez, nous avons des spécialistes, en fait, de l'électromagnétisme, des micro-ondes, des armes à énergie dirigées. Et donc, on a croisé les avis entre les uns et les autres. Et il se trouve qu'on trouve un fil conducteur. Alors, on ne va pas dire qu'il y a une révélation, mais on trouve un fil conducteur autour de ces fréquences, autour des effets de micro-ondes, y compris sur les effets physiologiques. On a un médecin qui va nous rejoindre et qui est un spécialiste des rayonnements ionisants et non ionisants. Donc, si vous voulez, on a des petits cailloux blancs qui sont en train de s'aligner par rapport à des phénomènes constatés à différentes époques en différents endroits. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et c'est un des contenus de notre nouveau rapport.
Je m'arrête peut-être sur le cas Téhéran, parce que là, vous me tendez la perche. C'est un cas quand même très, très intéressant. On va avoir du mal à dire que c'est un phénomène atmosphérique.
Ce n'est pas le seul cas. Il y a eu d'autres cas comme ça, notamment en Russie. Notre méthode, et c'était un peu votre question, que fait-on de l'hypothèse extraterrestre? Est-ce qu'on la privilégie? Est-ce qu'on la met de côté, etc.? En fait, on ne privilégie aucune hypothèse. L'approche technique scientifique, c'est de considérer un certain nombre d'hypothèses et de voir, au fond, à l'aune des mesures et des déductions, quelle est celle qui semble la plus probable, au fond. Bon, et donc, tout cela pour dire que les conclusions auxquelles on arrive, très schématiquement et de façon résumée, telle que c'est dans la synthèse aujourd'hui, les questions qui se sont posées à propos de plasma atmosphérique, ce qui est en gros une des grandes conclusions tirées par le rapport britannique du ministère de la Défense, qui a été publié plus exactement en 2006. Ils invoquent des plasmas atmosphériques qui apparaîtraient en quelque sorte, notamment lors de rentrées atmosphériques de météorites, etc. Ce type de plasma existe, des plasmas flottants. On a regardé ça, on a des spécialistes de foudre en boule, etc., qui font partie également de l'équipe. Simplement, ce type de phénomène ne peut pas expliquer un déplacement au-delà de la vitesse du son, des changements de direction à 90 degrés ou des points de rebroussement. D'accord ? Un plasma qui se déplace jusqu'à 1000 km/h, oui, qui peut sembler ne pas suivre les lois de l'inertie, peut-être, mais pas avec des variations de vitesse aussi brutales. Donc vous voyez, ça c'est une des conclusions auxquelles on arrive. En revanche, effectivement, il y a des phénomènes dont l'influence ou l'incidence sur des équipements font ressortir des sources électromagnétiques particulières qui semblent ou qui ressemblent à des sources artificielles. Voilà. Alors, on peut se poser la question, s'agit-il de technologies cachées, hein, de programmes black, etc. Dans certains cas, oui, on peut se poser la question. Maintenant, des armes à micro-ondes dans les années, milieu des années 70, oui, on en parle aujourd'hui. Il y a tout un chapitre de notre rapport qui est consacré à ces sujets-là. Mais on parle des technologies actuelles. On ne parle pas des technologies d'il y a 50 ans bientôt, vous voyez. Donc ça change beaucoup de choses de ce point de vue-là. Mais encore une fois, on fait le tri. On donne un avis sur certains phénomènes naturels en disant, oui, dans certains cas, oui, ça peut être pris pour un ovni, disons-le, compte tenu des cinématiques. Dans d'autres cas, non, parce que la physique ne suit pas. Voilà.
Je me tourne vers vous, Pierre Bescon. Je me dis que finalement, bon, les ovnis, officiellement, on en voit depuis la Seconde Guerre mondiale, où les fameux pilotes américains voyaient ce qu'ils appelaient des Foo Fighters, ils ne comprenaient pas trop ce que c'était, etc. Ou alors 1947 avec Hannes Arnold. Mais toujours est-il que finalement, les comportements de ces engins depuis 1947, bah, c'est toujours les mêmes. Et en 1947, il n'y avait pas de drone.
Ben oui, donc c'est donc un véritable mystère. Et c'est bien la raison pour laquelle, en scientifique, quand on est face à quelque chose qu'on ne comprend pas, on le range sur une étagère, on devrait y réfléchir. Si certaines théories physiques ou mathématiques ou nous aident à comprendre mieux plus tard, on verra bien. Mais on ne dit pas que ce sont des bêtises. Alors vous avez certains scientifiques, entre guillemets, qui disent tout ça, c'est des conneries. Ben non, les gens qui ont vu ça, et en particulier des pilotes dont le métier c'est d'observer, ne sont pas les imbéciles. Ce qu'ils ont vu, c'est réel. Alors, c'est réel. Faire attention au mot réel, hein, parce que c'est la raison pour laquelle nous utilisons le mot pan, la plupart du temps, au lieu d'ovni. Parce que ovni, c'est déjà un parti pris. C'est objet volant non identifié. Tandis que pan, c'est phénomène aérospatial non identifié. Donc, on ne dit pas forcément que c'est physique, on n'en sait rien. Mais en tout cas, ces observations-là, comme vous dites, elles ne datent pas d'aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas les drones, il n'y avait pas les propulsions qu'on connaît beaucoup meilleures aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Et malgré tout, ça existait déjà. Donc c'est quand même assez mystérieux. Ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on se dise, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Eh ben, travaillons sur le sujet, comme le dit très bien Luc Dini, de façon scientifique, ordonnée, de façon à mieux y comprendre. Un jour, peut-être qu'on comprendra tout à fait ces choses-là. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il nous manque des éléments, quand même.
Le 25 juin prochain, le Pentagone va rendre public un nouveau rapport d'étude sur les ovnis, dans lequel, semble-t-il, il admet qu'un certain nombre d'observations d'objets étranges par des militaires n'a toujours pas trouvé d'explication. C'est une divulgation qui intervient après une très longue séquence, hein, de 3 ans, au cours desquelles des fuites ont été, on peut le supposer, planifiées peut-être, en direction des grands médias américains, sans qu'on sache très bien d'où elles venaient, ces fuites. Comment vous avez vécu, vous, ces 3 années?
Ah ben on les a vécus avec beaucoup d'intérêt. Il est évident que les articles qui sont parus dans la presse américaine, notamment dans Politico et Huffington Post, je crois bien, sous la plume notamment de Leslie Kean, ont soulevé immédiatement des questions. Et d'ailleurs, nous avons énoncé ces questions de façon extrêmement claire dans une note qui est parue le 4 janvier 2018. Donc vous voyez, quelques jours après, où on posait 3 questions. Y a-t-il un changement dans la politique de communication américaine sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés? S'il y a ce changement, deuxième question, y a-t-il de nouvelles données? Et y a-t-il une intention américaine pour divulguer et mettre à disposition ces données, les partager? Troisième question, étant donné les 2 premières, est-ce qu'il y a questionnement sur l'hypothèse extraterrestre? Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, les 3 ans ont passé. On a observé, effectivement, et de façon assez minutieuse, l'évolution de la campagne de communication, la divulgation d'informations qui ont été contestées par le Pentagone, puis qui ont été authentifiées, tout en disant au début, oui, mais il n'y avait pas d'autorisation pour les divulguer. Et puis finalement, eh bien oui, les gens avaient le droit de diffuser ces informations. Donc vous voyez, on a suivi les fluctuations de la communication, y compris ces derniers jours, puisque bon, voilà, un rapport est sorti, un journal américain important fait quelques révélations sur ce rapport. On attend l'avis du Congrès, bien entendu, mais des photos ont fuité sur le net. Donc tout ça, effectivement, est très intéressant. Maintenant, changement de communication, oui, manifestement. Est-ce une campagne qui, au fond, subit les soubresauts de courants contradictoires, ou bien, au contraire, est-ce une campagne qui est très bien construite pour amener un certain nombre d'informations sur la table ? Ça, on n'a pas de boule de cristal pour le dire. Puis il y a des gens plus qualifiés pour le faire, certainement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va voir apparaître un certain nombre de faits nouveaux qui sont extrêmement intéressants. La question est, au-delà des déclarations, y a-t-il une information objective ? Y a-t-il des bases de données qui vont être mises à disposition ? Quelles vont être les décisions ? Et ça, c'est un grand point d'interrogation.
Il y a des gens en France qui travaillent dans le renseignement, dans l'information, qui savent aussi décrypter ce genre de guerre de l'information autour des ovnis. Moi, je pense notamment à ce bouquin de François Parmentier sur 60 ans de désinformation qui m'avait beaucoup intéressé. Et puis là, bah, dernièrement, il y a quelqu'un comme Alain Juillet. On l'attendait peut-être pas là, Alain Juillet. Et comment se fait-il que subitement l'ancien patron de la DGSE se dise, bah voilà, les ovnis, c'est intéressant, à tout le moins.
Alors écoutez, on ne peut pas parler à la place d'Alain Juillet, même si on a l'occasion de le rencontrer assez fréquemment et de participer à des tables rondes ou à des émissions ensemble. Bon, c'est à lui de répondre à la question de sa perception en tant qu'ancien du renseignement. D'ailleurs, je signale à votre attention également une intervention qu'il a faite il y a quelques jours, donc sur une chaîne là, du web, sur des questions qui étaient des questions géopolitiques, etc., et où il a parlé également des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Ce que l'on peut dire simplement par rapport à son intérêt, qu'on pense avoir compris, c'est qu'il considère que le sujet des phénomènes aérospatiaux non identifiés pose d'un côté des questions de sécurité et de sûreté qui sont évoquées par les autorités américaines, puisque le grand changement, au fond, ce sont les déclarations. Et là, il ne s'agit pas d'attendre le rapport. Ce sont les interrogations depuis un peu plus d'un an de responsables américains qui disent « mais il y a des objets qu'on ne connaît pas qui sont dans notre ciel ». Donc vous voyez, vous oubliez les ovnis un instant. Imaginez bien quand même que depuis le 11 septembre, ce genre de déclaration n'est pas anodine. Parce que ça veut dire au fond qu'il se passe des choses qu'ils n'arrivent pas à comprendre, qu'ils n'arrivent pas à cerner. Donc rien que ce fait-là est un fait étonnant. Donc quelqu'un comme Alain Juillet, évidemment, ça l'interpelle. Ensuite, c'est quelqu'un qui, je crois, a une grande sensibilité par rapport aux technologies, par rapport à l'innovation, etc. Et ça, c'est son profil intelligence économique également. Et donc il est attentif au game changer, si vous voulez, pour parler à l'américaine. Et donc je pense que c'est une deuxième raison de son intérêt pour le sujet, parce qu'il considère que, pour nous, Européens, Français, etc., on ne peut pas être absent de ces sujets-là, et il faut s'y intéresser. Voilà.
Est-ce que la commission Zima a travaillé sur les vidéos donc de l'USS Nimitz, les autres vidéos qu'on a pu voir? Vous avez travaillé sur ces images, sur les vidéos américaines qui ont été publiées par le Pentagone?
Non. Enfin, moi, pas beaucoup. La commission, pas vraiment non plus. Ça manque de données. Si vous voulez. Quand on regarde, ce qu'il nous faut, nous, ce sont des données mesurées. Et celles-là, bien entendu, elles sont confidentielles défense où les Américains ne les donnent pas. Donc les vidéos en elles-mêmes, ça ne suffit pas. Quoi.
Pour vous, elles n'ont pas de valeur spéciale?
C'est pas qu'elles n'ont pas de valeur. Au fond, ces vidéos-là, c'est du teasing. D'accord. C'est-à-dire que ça met les gens face à des informations qui n'étaient pas prévues, qui intriguent, et qui intriguent non seulement les spectateurs, mais également des pilotes de chasse. Donc forcément, ça donne à réfléchir. Le problème, c'est qu'une vidéo infrarouge, comme n'importe quelle vidéo, eh bien, elle est liée à un appareil de mesure. cet appareil mesure, il n'est pas suspendu n'importe où dans l'espace. Il est porté par quelque chose, en l'occurrence dans cette affaire-là par un F-18. On a eu des cas de vidéos infrarouges auxquels on s'est beaucoup intéressé, sur lesquels on a travaillé. Pour l'une, portée par un hélicoptère Cougar de la marine chilienne. Pour l'autre, portée par un avion, un avion américain à Porto Rico, qui est un avion de surveillance de frontières. La grande différence avec notre affaire, c'est que dans les deux premières affaires que je cite, nous avions les coordonnées, la trajectoire de l'avion, donc on savait exactement où il était placé, on savait son orientation, donc l'orientation de la ligne de visée de la caméra. Donc à partir de là, vous commencez à travailler sur la reconstitution des faits, sur la reconstitution en trois dimensions de ce qui se passe. Alors que là, on a des vidéos qui sont très certainement authentiques, qui sont très certainement intéressantes, mais en dehors de voir une tache lumineuse qui se balade dans le champ de la caméra, on ne sait pas où ça s'est passé, à quel moment exactement, on ne connaît pas la séquence des événements. Les Américains ont donné d'autres informations, parmi lesquelles l'observation d'écho par des radars, qui ont amené justement les F-18 sur zone à avoir un contact visuel, puis après les enregistrements infrarouges. Mais toute cette histoire-là, on la connaît par ouï-dire. Vous voyez, on n'a aucune donnée. Donc nous sommes des gens prudents. On attend d'avoir connaissance de ces données. Et à ce moment-là, on pourra peut-être apporter un avis, faire une étude complémentaire. Et on espère beaucoup, effectivement, des travaux qui ont été entrepris par les Américains, et par TTSA, par Bigelow Aerospace, etc. Et ce fameux rapport, pour avoir connaissance d'informations plus précises. Pour l'instant, on préfère rester prudent et attendre.
Luc Digny et Pierre Bescon de la commission Sigma 2 sont loin d'avoir révélé tout ce qu'ils savent sur cette question des ovnis. Alors je vous invite à suivre la suite de cet entretien la semaine prochaine dans l'émission Les Témoins de l'Invisible sur Radio Rancière. Il y sera notamment question du rapport que vient de publier la commission Sigma 2 sous l'égide de la prestigieuse Association astronautique et aéronautique de France. Les conclusions de ce rapport, vous allez le voir, sont assez étonnantes, voire dérangeantes. Je ne vous en dis pas plus. Rendez-vous la semaine prochaine dans Les Témoins de l'Invisible. D'ici là, restez fidèles au programme de Radio Rancière, la radio qui, je vous le rappelle, rapproche les hommes. Contre ça.